Bienvenue à l'écoute de l'émission interactive de VOA Afrique à votre avis. Nathalie Barge avec vous dans les studios de la Voix de l'Amérique à Washington. En Afrique du Sud, le tribunal de Pretoria a estimé que la négligence de deux officiels a causé la mort de plusieurs patients psychiatriques décédés après leur transfert vers des centres de soins non agréés. Entre 2016 et 2017, au moins 144 patients sont morts de pneumonie, déshydratation ou diarrhée à la suite de leur transfert vers des ONG locales. Un rapport gouvernemental a révélé que les centres ne fournissaient pas suffisamment d'eau et de nourriture à certains patients. Alors comment empêcher les abus contre les patients psychiatriques? Les centres spécialisés sont-ils suffisamment équipés et le personnel soignant est-il bien formé? Alors nous allons en parler avec vous. Nous avons eu quelques commentaires de nos auditeurs, entre autres, et d'experts sur le Facebook de VOA Afrique. Nous avons en ligne un invité, c'est Anissé Mourouani, administrateur du centre hospitalier neuropsychiatrique de Goma, dans le Nord Kivu, en République démocratique du Congo. Anissé, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous.
Merci, bonjour, bonsoir.
Alors, oui, il est déjà 20h, n'est-ce pas, à Goma. Alors, Anissé, votre centre, vous pouvez nous décrire un petit peu ce centre hospitalier, donc pour ces patients. Quel type de patients vous avez? Pouvez-vous nous dire le nombre de personnes et comment il fonctionne, si on peut avoir un bref aperçu de ce centre?
Oui, merci beaucoup. Le centre hospitalier neuropsychiatrique est situé dans la province du Nord Kivu, dans la ville de Goma, dans le quartier Keshero. Nous avons un personnel de presque 46 personnes. Alors, nous avons un médecin psychiatre, nous avons deux infirmiers neuropsychiatres, un médecin généraliste, des psychologues, des infirmiers polyvalents. Nous avons aussi des techniciens en ergothérapie et aussi des assistants sociaux et un groupe administratif qui accompagne tous ces techniciens pour rendre service aux malades qui se présentent chez nous. Alors, chaque mois, le centre consulte au moins à l'externat 80 patients par semaine. Et en hospitalisation, nous hospitalisons une moyenne de 50 patients qui sont en hospitalisation chaque jour. Voilà un peu l'aperçu un peu général de notre structure centre hospitalier neuropsychiatrique.
Alors, des consultations, je ne sais pas si j'ai bien compris, vous avez combien de patients en tout? Vous en avez 80, c'est ça? Mais 50 patients par jour, c'est quoi ça, les 50 patients par jour?
Les 80 patients, c'est la fréquence des patients qui arrivent pour des consultations en ambulatoire.
Okay.
Et les 50 patients, ce sont des patients qui sont en hospitalisation.
D'accord, qui sont
qui se remplacent selon, ils se remplacent en hospitalisation selon leur amélioration, selon leur état de santé. Mais les autres partent et les autres reviennent. D'accord. Et les autres viennent. C'est pour cela qu'on a toujours en moyenne en hospitalisation 50 patients.
D'accord. C'est votre capacité en quelque sorte. Vous pouvez donc recevoir une cinquantaine de patients et vous êtes tout de même 46 personnes au niveau du personnel. Donc on voit qu'il y a un très bon rapport, j'imagine, entre les patients et donc les personnes hospitalières. Au niveau, alors pourriez-vous nous dire quel type de patients vous avez? Quand vous dites que vous avez 80 patients environ qui viennent consulter donc à partir de l'extérieur, les services de votre centre. Et quel type de patients vous recevez d'une manière générale?
Pour le moment, avec la situation que nous traversons, la majorité des patients présentent des troubles maniaco-dépressifs et dépression, mais la majorité aussi par rapport à la jeunesse, par rapport à l'âge, ce sont des cas de toxicomanie et d'alcoolisme. Mais sans oublier les cas d'épilepsie, surtout en ambulatoire.
Et donc, c'est en particulier des jeunes que vous avez qui sont victimes de toxicomanie et d'alcoolisme?
Les jeunes sont plus en hospitalisation parce qu'ils viennent déjà en crise et ils ne sont pas faciles à gérer à la maison. Donc, si vous entrez dans notre service d'hospitalisation, Donc la majorité de ceux qui sont en hospitalisation, malheureusement, ce sont des jeunes et qui sont là souvent pour problèmes de toxicomanie et alcoolisme.
Alors, restez avec nous, Anissé. On va écouter Dr Antoinette Montaigne en Centrafrique. Elle est experte en droit des enfants.
Condamner la négligence des services psychiatriques tels qu'en Afrique du Sud est déjà une victoire. Si cette condamnation a pu avoir lieu, c'est parce que la protection juridique des patients de psychiatrie existe. Or, qu'est-ce qu'on constate dans la plupart des pays, notamment les pays en conflit ou en post-conflit, où des milliers de populations ont survécu à des violences graves et multiformes, avec des blessures physiques, émotionnelles, psychologiques et des séquelles traumatiques profondes. On constate que deux fois et souvent, le droit à la protection des personnes atteintes de troubles psychiatriques n'existe même pas et n'est même pas identifié dans les formations sanitaires. Pire, la construction de la paix ne prend pas suffisamment en compte et n'insiste pas sur cette dimension, alors que les conflits montrent le désarroi de la population face aux problématiques de santé mentale. Déjà, pour protéger les personnes, il faudrait commencer à leur donner l'accès à la santé mentale dans des unités spécialisées, formées, pluridisciplinaires. Il est également important que le droit des patients atteints de troubles psychiatriques soit visible, lisible et reconnu par le personnel soignant lui-même dans ces différentes unités sanitaires, là où de fois même la psychiatrie n'existe pas en tant que telle. Ce droit doit être respecté par tous pour donner une chance de guérison aux patients qui en ont besoin. Et ce droit à la protection des patients vulnérables aux troubles psychiatriques et psychologiques doit être promu par tous les États, notamment les pays en conflit, où la construction de la paix et la contribution de la communauté internationale doit insister sur ces instruments en tant que droit humain fondamental.
C'était Dr Antoinette Montaigne. Anissé Mourouani, est-ce que vous savez, vous êtes plusieurs centres psychiatriques dans la région de Goma, vous pouvez nous donner une petite cartographie éventuellement, ou est-ce que vous êtes seul?
Bon, jusque-là, nous sommes le plus grand centre spécialisé qui se trouve à Goma et même dans la province. D'autres, ce sont des centres de santé qui commencent à naître avec les réalités du moment. Mais comme centre spécialisé, nous sommes le seul centre au niveau du Nord Kivu.
Au niveau du Nord Kivu, carrément, au niveau de toute la province.
Oui, oui. Oui, les autres sont des centres qui sont en train de naître et qui évoluent progressivement. Mais comme plus grand centre, nous sommes le plus grand centre de la province.
Et vous êtes un établissement public ou privé?
Nous sommes un établissement privé, mais qui collabore toujours avec le gouvernement.
Donc c'est absolument incroyable, hein, avec ce qui se passe en plus de ça dans l'est de la République démocratique du Congo, avec toute cette violence armée. On imagine que la demande est très très forte. Et vous nous dites en gros, hein, que vous êtes le seul grand centre et que vous avez dans votre centre une cinquantaine de personnes. Donc ce qui veut dire qu'il y a énormément de gens qui ne sont pas assistés. Donc, dans votre province, c'est ça?
Ça, c'est. J'étais en train de suivre ce que madame était en train de dire. Je pense que ce que vous dites là, c'est ce qui est vrai, parce que tout le monde n'a pas la possibilité d'accéder aux soins. Et ceux qui pouvaient venir pour bénéficier des soins, bon, ils sont aussi limités par rapport aux moyens. Et comme il n'y a pas une possibilité, un soutien au niveau de décideurs pour que on puisse prendre mieux en charge la santé mentale des populations. Et là, ça pose vraiment problème. Ceux qui viennent, ce sont ceux-là qui ont eu la chance d'être accompagnés et d'être amenés jusqu'à l'hôpital. Mais les autres traînent là où ils sont, ils n'ont personne pour les soutenir et les amener à l'hôpital. Et ça c'est vraiment un problème. C'est vraiment un problème dans la région.
Anissé Mourouani, restez avec nous. On va à présent au Bénin pour écouter un instituteur, c'est Freud Dovonou.
Je pense que les patients du genre doivent être pris en charge par le gouvernement. Ils doivent avoir une prise en charge totale. Il faut que les centres soient réellement équipés parce que nous sommes en Afrique et on constate que les centres psychiatriques, les centres spécialisés ne sont pas suffisamment équipés. Il faut aussi l'énergie électrique qu'il faut mettre de l'eau, Il faut aussi des groupes électrogènes dans ces centres parce que nous allons dans des centres où il n'y a pas de l'eau ou encore lorsque c'est la société d'énergie électrique qui coupe, alors tout rentre dans le noir. Donc il faut corriger tout ça là, permettre aux patients d'avoir un accès facile à ces centres, décentraliser même ces centres ou bien construire plusieurs centres psychiatriques dans toutes les grandes régions du pays pour faciliter l'accès à ces patients-là. Le personnel soignant aussi doit être formé, doit être suffisamment formé. On ne peut pas voir nos frères, nos sœurs, nos amis, nos parents être soignés à moitié. L'État doit prendre ses responsabilités pour permettre à la population de survivre face à n'importe quel mal, face à n'importe quelle pathologie. Vive le monde, vive l'Afrique, vive la Bio-Afrique. Je vous remercie.
C'était Freud de Vonou au Bénin. Anissé Mourouani, est-ce que vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait environ 80 patients qui venaient consulter par semaine. Dans ces 80 patients, est-ce qu'il y a des cas qui sont en relation justement avec la violence armée qu'il y a dans votre région?
Oui, oui. Ce sont souvent des gens qui viennent des camps de déplacés, d'autres qui viennent des environs des camps. Vous savez que la guerre n'affecte pas seulement les déplacés, mais ça affecte aussi les familles qui accueillent les déplacés, les familles qui vivent à côté ou proches des déplacés, qui sont en train d'assister à des situations très alarmantes et tous développent des problèmes de santé mentale. Donc ce ne sont pas seulement des déplacés, mais c'est aussi des personnes qui sont affectées par la guerre d'une manière indirecte. Donc ça, ce sont des gens qui viennent... Mais les autres aussi, ce sont des personnes qui ont des problèmes, qui n'ont pas eu de solution, parce que, bon, avec la guerre que nous vivons, la situation de la population devient de plus en plus difficile. Maintenant, beaucoup de gens n'arrivent pas à surmonter à leurs besoins les plus élémentaires. Alors, s'ils ont cette affection de santé mentale, ils arrivent à connaître les réussites d'une manière régulière, parce que, bon, la situation ne va pas. Voilà.
Anissé Mourouani, restez avec nous. On va écouter à présent une Gabonaise qui vit au Canada et qui connaît bien la question. C'est Stéphanie Padonou.
Ce sujet me touche tout particulièrement car j'ai travaillé pendant plusieurs années à l'OPQ, qui est l'Ordre des psychologues du Québec, ici au Canada. Je ne peux donc que me réjouir de l'augmentation de la considération de l'aspect psychologique dans son ensemble. Toutefois, dans plusieurs pays africains, comme mon pays d'origine, le Gabon, la non-information, le manque de sensibilisation et donc le manque de connaissance des maladies mentales favorisent toutes sortes de traitements aussi dégradants que totalement inhumains sur des proches ou des personnes qui, au lieu d'être considérées comme des personnes handicapées, des personnes malades, aux facultés affaiblies, amoindries, sont plutôt traitées comme des personnes possédées, des personnes sorcières, des personnes dont on a peur. Ainsi, il devient difficile d'apporter un traitement adéquat et une réelle considération, une réelle attention à des personnes dont on a peur. Et c'est dommage parce que pour un certain nombre de ces personnes-là, il aurait suffi du bon traitement pour qu'elles puissent être en mesure de se réinsérer dans la société et fonctionner correctement. Donc, c'est vraiment, en mon sens, un problème justement de manque d'informations de la population en général et surtout de manque de professionnels dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines, ce qui effectivement aurait permis une avancée dans ce domaine. Donc ces personnes justement amoindries, handicapées, deviennent ainsi des parias dans la société, malheureusement.
Anissé Mourouani, vous avez entendu hein, Stéphanie Padonou, elle parle de paria dans la société. On sait que dans plusieurs cultures, comme elle l'a dit, hein, quelqu'un qui a des problèmes psychologiques peut être considéré, je ne sais pas, comme une personne ensorcelée, etc. On l'amène à l'église, on l'amène à d'autres endroits, mais pas là où il faut, c'est-à-dire chez vous, en tout cas là où on va prendre soin d'eux. Est-ce que dans votre région, vous avez encore ce problème-là, ce type de croyance? Et si oui, est-ce qu'il est fait quelque chose pour lutter contre ça ou est-ce
parce qu'on a vraiment passé ce cap-là et que vraiment les gens sont conscients que cela est une maladie et qu'il faut apporter des soins appropriés.
Je peux dire que ce que madame dit, elle dit ce qui est vrai, parce que dans notre région, la compréhension de la maladie mentale pose encore problème, parce qu'il y a beaucoup de mythes autour de ça. Il y a ceux qui pensent que c'est sur des démons, c'est la sorcellerie. Il y a ceux qui pensent que la personne aurait touché je ne sais pas quoi, cherché je ne sais pas quoi pour vouloir devenir qui et qui. Et maintenant, il a développé une maladie mentale ou c'est un mauvais sort. Et cette conception demeure. Mais nous fournissons assez d'efforts pour multiplier les séances de sensibilisation au niveau des radios, de sensibilisation communautaire. Nous travaillons avec les relais communautaires que nous formons au niveau des aires de santé, des zones de santé proches de Goma, proches des camps de Placé, et d'autres aires de santé qui sont à l'intérieur, pour essayer effectivement de montrer aux gens que la maladie mentale, c'est juste une maladie. Et quand on est malade, on n'a pas ailleurs où aller si ce n'est pas à l'hôpital. Donc ça, c'est une réalité. Et cette conception-là fait que les malades sont marginalisés, effectivement, et d'autres arrivent à l'hôpital en état déjà dans des tableaux compliqués, en ayant déjà développé d'autres pathologies à cause de la situation ou des conditions de vie qu'on les a soumis. Et même d'autres viennent après avoir été tabassés sérieusement par X ou Y. Et bon, voilà, tout ça parce que la population n'a pas encore vraiment compris la santé mentale ou la maladie mentale.
Anissé Mourouani, restez avec nous. On va rester dans votre pays pour écouter Espérance Kilembe, qui est présidente d'une association qui s'occupe de personnes âgées. Et tout de suite après, on écoutera Christian Politassi, qui est également congolais.
En général, la population, surtout africaine, ne connaît pas les droits des patients psychiatriques. Ce qui fait que dès qu'une personne commence à avoir des troubles mentaux, on ne la conduit pas aussitôt à l'hôpital. On l'amène chez les féticheurs, les guérisseurs. Et au finish, elle développe réellement la folie. Surtout les femmes qui souffrent des troubles mentaux après l'accouchement, elles sont même répudiées par leur mari. Conséquence, la folie, la mort. C'est pourquoi il faut vraiment une forte sensibilisation pour que les accompagnateurs et les membres des familles des concernés puissent agir en conséquence des causes.
Je pense que les actes que pose ce centre, cela dénote la négligence pure et simple. Et la négligence en droit est caractérisée comme étant des infractions de commission par omission. Et donc, du coup, ils sont passibles d'être sanctionnés. L'une des possibilités à mettre fin à ce genre de choses, c'est d'appliquer la loi. Il faudrait qu'ils soient sanctionnés. Deuxième chose, il faudrait que l'État puisse subventionner ces centres afin de leur donner les moyens nécessaires pour mieux fonctionner. Et troisième chose, il faudrait procéder par des contrôles. L'État doit bien réguler ce secteur afin d'éviter des cas de dérapage. Voilà ce que je peux dire par rapport à ce débat du jour, combien intéressant, parce qu'il n'y a pas seulement ces centres, il y a également les hospices. Il y a certains hospices qui sont négligents, qui ne prennent pas bien en charge des personnes de troisième âge. Et c'est pratiquement un sujet qui révèle le même caractère, voilà pourquoi je l'ai évoqué.
Anissé Mourouani, hein, je rappelle que vous êtes administrateur du centre hospitalier neuropsychiatrique de Goma. Alors au niveau des abus, comment faire pour lutter contre ces abus qui pourraient être pratiqués parfois, ou en tout cas de la négligence par du personnel soignant? Vous-même, est-ce que vous êtes bien contrôlé? Est-ce qu'il y a des lois qui sont très suivies? Comment ça se passe d'une manière générale dans votre centre? Et qu'est-ce que vous auriez à préconiser s'il n'y a pas assez de contrôle selon vous?
Bon, c'est nous multiplions dans notre centre. Hein. Dans notre centre, nous multiplions des formations de notre personnel sur le droit des personnes malades mentales. Et nous-mêmes, nous organisons des formations pour d'autres acteurs sur le droit des personnes malades mentales. Je peux vous donner par exemple un exemple, je m'excuse. Nous venons juste de créer à travers notre centre et faciliter par notre centre une organisation de personnes malades mentales qui, maintenant, nous sommes en train d'accompagner pour que cette organisation soit parmi les structures qui vont nous aider à sensibiliser la population. Alors, donc, à notre niveau, nous, on fournit effectivement d'efforts pour que notre personnel ne puisse pas tomber dans ces genres d'abus. Et c'est vraiment regrettable qu'on puisse apprendre qu'il y a des structures psychiatriques et qui n'arrivent pas à protéger le malade. Alors si la même structure psychiatrique qui doit être en premier, hein, la structure qui sensibilise la population, parce qu'on suppose que ceux qui travaillent dans ces structures comprennent mieux le problème de santé mentale que d'autres personnes qui n'y travaillent pas. Alors c'est dommage que cela puisse arriver. Mais sinon, à notre niveau, nous fournissons vraiment assez d'efforts pour que notre personnel soit bien formé et que notre personnel respecte vraiment à fond les droits des personnes malades mentales. Nous sommes très, très, très vigilants par rapport à cet aspect-là dans notre structure.
Donc, si j'ai bien compris, hein, cette association, en quelque sorte, de personnes justement qui ont des problèmes psychologiques, hein, vous aide, travaille en collaboration avec vous, c'est-à-dire que des personnes qui arrivent à s'en sortir, à sortir par exemple de fortes maladies comme ça, de fortes dépressions, peuvent un petit peu collaborer avec vous pour vous aider au niveau des formations, c'est ça?
Ils peuvent nous aider dans la sensibilisation. Mmh. Et nous utilisons aussi leurs compétences. Et il y a parmi eux ceux qui ont plus de compétences. Ils peuvent aussi aider dans la sensibilisation des autres patients pour les aider à comprendre que quand il y a une crise, il faut aller à l'hôpital, il ne faut pas aller ailleurs. Mmh. Alors, c'est ça. Donc, c'est pour essayer aussi de montrer à la communauté qu'on ne doit pas coller à ces personnes une attitude ou quelque chose de stigmatisant. C'est pas parce qu'on a fait une maladie mentale qu'on devient invalide dans la société. Non, c'est juste une crise qui passe et puis après on est stabilisé, on peut continuer à faire beaucoup de choses et être utile à la société, à sa famille. Voyons parmi ces amis-là, il y a vraiment ceux qui sont tellement utiles, ils travaillent bien, ils sont bien. Tout ça parce que nous les accompagnons, nous les faisons comprendre que la maladie, c'est juste ça arrive et puis après, si on respecte juste les conseils de soignants, et c'est tout, on peut rester utile à la société même si on est malade.
Bien sûr, merci beaucoup Anissé Mourouani, restez avec nous. On va aller au Tchad à présent pour écouter la juriste Thérèse Mekombé et ensuite on écoutera Déborah Altati qui est au Gabon. On écoute d'abord Thérèse.
Je voudrais réagir par rapport à cet aspect de la chose et surtout par rapport à ces personnes malades qui, dans nos pays, sont souvent laissées à leur propre compte. Quelquefois, elles sont laissées aux familles qui n'ont pas les possibilités de s'occuper d'elles. Et ils sont dans nos rues avec tout ce qui a comme conséquence, comme viol, comme abus sexuel sur ces malades. Et je pense que beaucoup de pays n'ont pas de centre pour s'occuper de ces malades psychiatriques. Ça fait pitié de voir que des personnes humaines traînent dans les rues et surtout quand c'est une femme ou bien quand c'est des femmes qui sont dans les rues, dans nos marchés, nus, sans aucun habit pour se protéger. Parce que quelquefois, même quand leur portent les habits, par rapport à leur mouvement, par rapport à leur comportement, par rapport au fait qu'ils ne se maîtrisent pas elles-mêmes, ils se déshabillent. Et donc, ils sont à la merci des personnes qui n'ont pas de cœur et qui vont même jusqu'à violer ces femmes-là. Il y en a qu'on retrouve avec des grossesses, hein, avec une grossesse, une femme qui est malade dans la rue, dans le marché, avec une grossesse, personne ne s'en occupe. Et quelquefois, elles accouchent même dans les rues sans assistance. Et donc, moi, je pense que c'est un sujet qui est très, 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 très important et qui doit interpeller la conscience de tout le monde. Vraiment, c'est un plaidoyer qui nécessite d'être fait afin que le gouvernement puisse construire des centres où on doit caser ces malades-là, s'en occuper et les prendre en charge médicalement, psychologiquement. Et à la longue, peut-être que ces personnes-là vont retrouver la santé et regagner, par exemple, leur famille, regagner leur société et pourquoi pas se prendre en charge plus tard.
Je crois qu'aujourd'hui, au niveau d'Afrique, il y a un problème parce que les personnes qui souffrent de ces problèmes, ils sont abandonnés, ils ne sont pas bien suivis. Et ici en Afrique, tu peux trouver les fous ou les folles partout dans la ville. Et même dans nos familles aujourd'hui, il y a des personnes qui souffrent de ça. Mais dès que la personne manifeste ces choses-là, on cherche un peu dans les églises, on cherche un peu à prier, mais si ça résiste, et tout de suite là, on laisse la personne dehors de la famille, et même le gouvernement dans ses domaine-là, vraiment, ils ne sont pas efficaces.
Et puis s'il peut construire des endroits où on peut accueillir ces personnes et de former les personnes qui s'occupent uniquement de ces personnes-là, comment les parler, comment les soigner et comment faire pour que ces personnes-là retrouvent leur sens normal. Vraiment, ça sera une bonne chose pour l'Afrique.
Nous venons tout juste d'écouter Déborah Altati, qui est gabonaise. Anissé Mourouani, quels sont vos besoins, tant au niveau financier, structurel, des ressources humaines? On imagine que vraiment il y a un besoin énorme. Qu'est-ce que, si vous deviez réclamer quelque chose, qu'est-ce que ce serait?
En fait, le besoin le plus pressant ici, c'est le soutien à la prise en charge de personnes malades mentales. Parce que nous avons plus de malades qui sont vulnérables. Alors, si on peut avoir le soutien pour que ces malades puissent quand même accéder facilement chez nous, une prise en charge qui est vraiment holistique, et cet appui-là peut nous aider davantage à répondre aux besoins de personnes malades mentales, quelles que soient les conditions, quelles que soient leurs provenances. Et il y a aussi la question de la sensibilisation. La sensibilisation demande beaucoup de moyens et ça demande vraiment que ça soit soutenu pour que ça se fasse d'une manière correcte. Mais aussi, il y a une difficulté par rapport à l'approvisionnement psychotrope dans nos régions. Et c'est devenu un problème crucial, l'approvisionnement psychotrope, parce que ce sont des médicaments qui viennent de l'Europe, mais pour en avoir ici, ce n'est pas toujours facile. Et quand ça arrive, c'est presque à un prix un peu plus élevé. Et ça nous pose problème pour que le malade accède facilement à ces médicaments de qualité. Donc ça, c'est vraiment aussi un défi. Et il y a aussi un autre défi, c'est par rapport à la formation continue de notre personnel. Parce qu'on ne peut pas travailler dans un milieu psychiatrique et rester sans être capacité. Donc c'est une formation, ce sont des formations qui demandent aussi de moyens. Donc, vous voyez, à terme de besoins, nous avons beaucoup vraiment de besoins, mais le plus essentiel, je dirais que ce sont ces moyens-là qui peuvent nous aider à prendre en charge le cas, le vulnérable, et l'assurer ou d'organiser des sensibilisations d'une manière très, 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 très organisée pour que la population puisse avoir une information claire sur la maladie mentale. Les renforcements des capacités de notre personnel, mais aussi cet appui à avoir facilement des psychotropes pour qu'on prenne en charge facilement nos malades, quelle que soit leur précarité, parce que tout le monde a droit aux soins. Voilà
merci
un peu
beaucoup.
Comment je peux résumer les besoins.
Merci beaucoup, oui. Anissé Mourouani. Restez avec nous pour terminer. On va écouter Harouna Baldé, il est au Sénégal.
Alors moi, je pense qu'aujourd'hui, ces personnes qui sont atteintes de cette maladie ne doivent pas être traitées de parents pauvres, ni laissées à leur propre sort. Comme tous les autres patients, elles méritent d'être accompagnées, d'être soutenues, d'être soignées, d'être traitées comme il le faut, dans des bons centres psychiatriques, surtout du recensement jusqu'au traitement. Je pense que tout ce cursus-là, tout ce parcours-là doit être respecté. Et c'est leur droit... Les autorités étatiques sont interpellées parce qu'elles doivent veiller à ce que vraiment ces dernières-là puissent être traitées comme il le faut. Et aussi renforcer les centres, c'est-à-dire décentraliser les centres de... Comme je prends exemple au Sénégal, dans mon pays, tout est concentré dans la capitale. Je pense qu'aujourd'hui, il faudra décentraliser en créant des centres régionaux psychiatriques où les patients peuvent aller facilement pour se soigner. Et aussi réduire les frais, c'est-à-dire financer les coûts, les frais de l'ordonnance qui sont tout souvent trop chers ici. Si les dernières-là sont mises dans de bonnes conditions, ils peuvent retrouver leur faculté en quelque sorte.
Et voilà, c'était une réflexion de Harouna Baldé qui est au Sénégal, hein, qui parle justement de la question financière, hein, qui rejoint un petit peu ce que vous avez dit, Anissé Mourouani. Je rappelle que vous êtes administrateur du centre hospitalier neuropsychiatrique de Goma, dans le Nord Kivu, en République démocratique du Congo. On avait la production Josèle Morissin, avec vous c'était Nathalie Barge. Restez avec nous à l'écoute de VOA Afrique. Bonne soirée et bon courage.